Bulle d'histoire. Stéphane Dubreuil.
Wow.
Grande et petite histoire dans l'œil des auteurs de bandes dessinées.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Art District dans les bulles d'histoire. Je suis avec un auteur, mais je peux le dire, un de mes auteurs préférés, un de mes auteurs fétiches que j'ai rencontré il y a une dizaine d'années, Youssef à peu près, hein, pour une BD hilarante, Les Maîtres de Guerre, publiée par Fluide Glacial. Mais là, on va parler d'autre chose. Donc je suis avec Youssef Daoudi, dessinateur, scénariste, mais avant toute chose, Youssef, est-ce que tu peux nous dire qui tu es ?
Je suis Youssef Daoudi, je suis auteur, ancien directeur artistique et aujourd'hui, je me consacre entièrement à faire des livres comme celui sur lequel on va parler aujourd'hui.
On a déjà parlé de toi une fois sur Art District, c'était pour une émission jazz et bande dessinée. J'avais présenté un de tes albums qui était consacré à Thelonious Monk. Voilà, un bel album, un gros album en noir et blanc, qui rappelle l'album dont on va parler aujourd'hui, qui s'appelle Le Dernier Debout, qui est une biographie poétique, on va dire ça comme ça.
Portrait, je dirais.
Portrait, c'est bien mieux, de Jack Johnson, le plus extraordinaire boxeur noir de toute l'histoire de la boxe. On va découvrir pourquoi. Mais avant de parler de la bande dessinée, de ce personnage, est-ce que tu peux nous dire un peu où en est la boxe à la fin du 19e siècle, donc au moment où Jack Johnson va émerger ?
Bah, je pense que la boxe, sans être un grand spécialiste de la discipline, bien sûr, puisque... comme incise, je dirais que la boxe, surtout dans ce bouquin, sert comme un arrière-plan théâtral pour parler de l'époque. Mais pour en revenir à cela, je pense que le grand basculement, c'est celui effectivement de l'arrivée du XXe siècle avec les grands bouleversements du XXe siècle, à savoir en premier lieu le cinéma, l'image animée, qui va faire que la boxe va être de plus en plus vécue, peut-être pas en direct, mais les combats vont être projetés dans des salles de cinéma, ça va être un succès extraordinaire, un petit peu à côté des actualités, les matchs de boxe. Ensuite, ce qui vient, et ce qui correspond effectivement à ce que représente Jack Johnson, c'est l'argent, beaucoup d'argent, qui bien sûr cet argent est charrié par à la fois ce qu'on vient de dire au sujet des projets, de la projection de films, etc. mais aussi les tickets, mais aussi les paris. Voilà, la boxe a toujours été comme ça. Et puis ensuite d'autres bouleversements qu'incarne quelque part Jack Johnson, parce qu'il incarne le 20e siècle, c'est l'automobile aussi. Alors ça n'a rien à voir avec l'automobile, mais enfin c'est de la compétition aussi. Et Jack Johnson était grand amateur de voitures de sport, il avait les moyens de s'en payer. Et je pense que il y a aussi le basculement de la célébrité aussi, c'est-à-dire de la starification, j'aime pas trop ce mot, on va dire de vedettariat. Poussé à son extrême et s'agissant d'un personnage africain-américain dans un pays encore largement sous un régime de ségrégation raciale, c'est vraiment la preuve que Jack Johnson représente aussi vraiment la défiance et le défi de quelqu'un qui effectivement a contre lui le monde entier, sachant que les Américains considèrent qu'ils sont le monde entier.
Oui, c'est ce qu'on voit bien dans la bande dessinée. Faut, juste pour faire que les gens comprennent bien, c'est que la boxe, fin 19e, il y a deux championnats. Un championnat pour les blancs, un championnat pour les noirs. Il y a ce qu'on appelle la color line, c'est-à-dire que les noirs ne peuvent pas franchir la color line et les blancs ne veulent pas la franchir. Donc il ne peut pas y avoir de combat noir contre blanc. Jack Johnson est le champion.
Officieusement.
Officieusement. Oui, officieusement, avec des gains, avec des bourses, des choses comme ça. Et Jack Johnson, c'est le grand boxeur noir, champion du monde noir, qui a battu absolument tout le monde. Donc, logiquement, il faudrait qu'il combatte un blanc pour devenir le champion du monde, on va dire unifié, comme on pourrait dire actuellement, quoi.
Car en battant Burns en Australie, avant le combat qui est décrit dans ce livre, aux États-Unis, on a estimé qu'il fallait reprendre cette couronne par tous les moyens en allant chercher un retraité, Jim Jeffries, ancien grand champion, grand technicien, et en le consacrant, en le couronnant comme le grand espoir blanc. Alors, ce n'est pas un vain mot, car effectivement, certaines communautés considéraient que c'était une espèce de tabou qui avait été égratigné et qu'il fallait absolument reprendre la couronne. Et donc ce combat qui normalement devait s'organiser en Californie pour des raisons d'ordre public a été organisé à Reno, qui, comme chacun le sait, où les lois sont extrêmement permissives. C'est l'état du Nevada, l'état de Las Vegas, et donc Reno étant au Nevada, c'est les mêmes lois qui s'y appliquent.
Oui, parce que le Burns dont on parle, c'est aussi un grand boxeur.
Ah oui, tout à fait.
Et ce Burns qui est poursuivi, ça c'est tout le début du livre, c'est assez drôle, c'est dramatique et drôle, il est poursuivi par Jack Johnson qui lui dit mais viens te battre, faisons-le. Burns résiste jusqu'au moment où Jack Johnson lui dit je vais te donner, je crois, 10 000 dollars. Une énorme somme d'argent.
C'est gigantesque.
Et là, Burns va franchir la color line et ça va être mal vu. Hein.
Voilà, et ça va permettre effectivement Burns, qui était un excellent boxeur, qui va être absolument battu, mais de façon claire, nette et précise, à tel point que la caméra qui faisait la captation du match a dû s'arrêter au moment où Burns posait le genou à terre, enfin, qui était en train de perdre. Caméra carrément arrêté de filmer.
Oui, on n'a pas la fin du match.
On n'a pas la fin du match, et c'est effectivement, ça a été un choc immense. Mais quand même, c'est un match important, et ce qui est intéressant dans le livre, encore une fois, pourquoi j'insiste sur la terminologie ou le terme de portrait, parce que c'est aussi le portrait d'une époque. C'est surtout ça qui m'a beaucoup intéressé là-dedans. Donc, à chaque fois qu'on a un personnage central dans ce genre de chronique, ce qui est intéressant aussi, c'est de le situer par rapport à son époque, à l'imagerie de l'époque, au bruit de l'époque, etc. C'est à la fois intéressant parce que je suis un fou d'histoire, etc. Et c'est tellement amusant à dessiner, à rechercher toute la documentation qu'il y a autour de ça, etc. Et je crois beaucoup à la notion de connaissance. C'est-à-dire que quand on lit un livre, j'aime bien qu'on apprenne quelque chose à la fin du livre. Que ça ne soit pas seulement... Bien sûr, le divertissement est important. Mais un livre, pour moi, représente la connaissance. Du coup, plus il y a, de choses intéressantes à savoir, à connaître, de préférence de façon amusante, mieux c'est.
Voilà, il y a beaucoup de choses à savoir, parce qu'on ne connaît pas forcément ni le monde de la boxe, ni le monde des États-Unis de la fin du 19e siècle, du début du 20e. Donc on apprend beaucoup, beaucoup de choses, hein. Et donc, pour revenir au match, donc les promoteurs, en tout cas, arrivent à convaincre Jeffries d'affronter Jack Johnson.
De sortir de sa retraite.
Oui, parce qu'il élève des chevaux, oui. Donc, il sort de sa retraite. Les deux sont des gaillards, sont des colosses qui font 1m95, ils pèsent 120 kg. La boxe de l'époque est d'une violence extrême. Les matchs actuellement durent 15 rounds. Là, ça pouvait durer 45 rounds. Donc, ils avaient le temps d'être sévèrement blessés. Donc, le match se monte, mais il se monte avec beaucoup de tension. C'est extraordinaire. Parce que Jack Johnson, donc, est noir. Et il y a des gens qui ont carrément envie de le tuer. Il y a des mots d'ordre, tuer le nègre, le singe, la guenon. Enfin, c'est assez... C'est une violence extraordinaire.
Oui, et c'est là où effectivement Jack Johnson était fort. C'est que non seulement il a accepté, enfin, il a poursuivi de ses assiduités Burns afin de prendre la couronne, mais il était très intéressé par ce match afin de consacrer la chose, de gagner beaucoup d'argent et de démontrer qu'il n'avait rien. Ce n'était pas un activiste des. D'ailleurs, il n'y avait pas encore ce qu'on appelle la lutte pour les droits civiques, mais ce n'était pas un petit peu comme Monk, d'une certaine façon, ce n'était pas un activiste ou un militant ou quelque chose comme ça, pas du tout. C'était un individualiste qui s'inscrit naturellement dans la logique du vedettariat, de l'argent, de la célébrité, de l'affichage. Et donc, il était naturel. Et il aimait ça. Il aimait ça. Il était pendant tout le match, et on peut voir les images du match, tu le rappelais tout à l'heure, qui existent. Le match a été entièrement filmé. Les 15 rondes ont été entièrement filmées. Les sourires, tout le cinéma qu'il faisait, sûr de sa supériorité, parce que techniquement, il était hors norme. C'était non seulement un athlète d'exception, mais il avait introduit un certain nombre de techniques qui sont un petit peu propres à son physique. Très longiligne, à la fois longiligne et puissant, mais en même temps très gracile, on peut le voir ça dans les images. Il était absolument unique. Tandis que Jim Jeffries, qui devait sortir de sa retraite pour répondre à l'appel
du peuple,
de tout un peuple, mais aussi parce que d'une certaine façon lui n'avait pas maille à partir particulière, il n'avait aucune vengeance particulière à avoir, et il était lui aussi, je pense, il n'avait pas oublié le temps de sa gloire, et ça l'enivrait, et d'ailleurs on l'a persuadé qu'il pouvait le faire, et donc il est sorti de sa retraite, se remettre en forme, etc.
Oui, il perd 45 kilos.
Voilà, c'est un truc de fou, c'est-à-dire que quand on voit son physique, et il existe des images de tout ça, avant le match et après le match, avant c'était une espèce de gros bonhomme, bien sûr, bedonnant, très content de gérer sa petite ferme, mais il avait besoin de cet argent, et les sommes sont absolument énormes.
Oui, parce que la prime, c'est 100 000 dollars, je crois.
Et 100 000 dollars en 1910, je vous laisse faire le calcul ajusté à l'inflation, etc. Ça donne des sommes absolument incroyables. Mais le match était tellement, tellement important que on a vu l'émission du président Roosevelt. Ensuite, on a Jack London qui fait partie des reporters, enfin en tout cas qui s'intéressait beaucoup à ce combat. Je pense que cette histoire, et peut-être qu'on va parler tout à l'heure de la façon dont on a fait les bouquins, mais tout ça avec la dimension poétique qu'il y a dedans, ça installe exactement ce contraste, cette dichotomie que je veux entre la violence brute du combat en tant que tel, tout ça avec ce dessin en noir et blanc, ce rouge, etc., et une certaine voix qui traverse le bouquin, qui parle de l'époque, qui parle de la condition particulière et qui parle de l'écho de l'époque sur ce combat. Le bouquin est issu d'une coécriture avec Adrian, d'une longue conversation qui a duré des années. Et Adrian est poète, et c'est ces mots qui résonnent dans le bouquin. mais le bouquin a été raconté tous les deux. Ce n'est pas le résultat d'un scénariste qui tend une liasse de feuilles et il y a quelqu'un qui les illustre, absolument pas.
Alors c'est encore plus intéressant que ce que je pensais, on va en parler parce que c'est un travail d'écriture qui est fascinant, absolument fascinant. On va encore parler un peu du combat et on va encore parler un peu de Jack Johnson. Tu parlais de la modernité, Jack Johnson il s'inscrit exactement là-dedans parce que c'est le moment où les Noirs vont sortir. C'est la fin de la guerre de sécession, depuis 40 ans, c'est terminé. Il y a encore de la ségrégation, il y a encore beaucoup, beaucoup de racisme. Mais c'est le moment où les Noirs américains vont commencer à sortir de la population. Il y a Jack Johnson, mais il y a aussi les jazzmen qui vont arriver peu de temps après. Et comme les jazzmen, Jack Johnson va être obligé de s'exiler. Il va venir à Paris, il va venir en Europe, comme tous les musiciens qui débarquent avec l'armée américaine.
Alors, d'une part, il y a une grande immigration qui va s'effectuer du sud agricole, le coton, etc., les grandes exploitations qui étaient plutôt dans la ruralité, vers le nord industriel. Ça, c'est un premier point. Donc Chicago, Détroit, etc. Détroit, c'est les voitures, Chicago, c'est d'autres choses. Et Johnson habitera à Chicago. Il est issu, lui, il est né à Galveston, d'où son surnom, le géant de Galveston, sur la côte, le golfe du Mexique, quoi. C'est le Mexique, hein, Galveston. Et en fait, son exil, c'est toute une histoire aussi. Son exil était forcé, car... Et je ne veux pas révéler des choses dans le...
Non, mais ne révèle pas. En tout cas, sa famille est une famille d'esclaves.
Absolument.
Qui va émigrer, entre guillemets, en tout cas qui va migrer vers le nord de l'Amérique.
Absolument.
Pour travailler ailleurs que dans les champs de coton.
Et d'ailleurs, justement, la guerre de sécession appartenait déjà dans un passé assez lointain, il n'en reste pas moins que cette ségrégation a continué longtemps encore. Encore une fois, comme nous disions tout à l'heure que c'était la color line, ou la ligne de couleur, la frontière de la couleur était officieuse, la ségrégation l'était aussi. C'est-à-dire que, arbitrairement, on va dire, voilà, ce café est interdit aux Noirs, etc. Et d'ailleurs, qui est-ce qui va aller voir le combat ? La plupart,
des blancs.
Voilà, je veux dire, d'une part pour des raisons de moyens, et ensuite, il y avait le risque de lynchage, de se retrouver dans une situation inconfortable, et d'ailleurs dans le combat, encore une fois, sans vouloir rien révéler, il y avait quand même la crainte que certaines personnes mal intentionnées viennent avec des armes et essayent effectivement de trancher le combat, mais avec une balle dans
le... Oui, parce que sans révéler de choses un peu inédites, évidemment on sait que Jack Johnson va gagner, il devient le plus grand boxeur de tous les temps, il gagne le combat du siècle. Une fois qu'il a gagné le combat, l'émotion de la population blanche est telle qu'il y a des émeutes raciales, qu'il y a des lynchages, qu'il y a des Noirs qui sont tués dans la rue, c'est quelque chose d'absolument insensé, quoi.
Oui, et d'ailleurs, c'est pour cette raison, une des raisons pour lesquelles le combat n'a pas été organisé en Californie au final, c'est par crainte de ce genre de troubles. Et de toute façon, toutes les occasions étaient bonnes pour aller effectivement lyncher quelqu'un, un noir de préférence, ce n'était pas évidemment le propre de toute la population. Mais enfin, il y a toujours des gens qui sont là, qui sont un petit peu plus radicaux que d'autres, et qui vont passer à l'acte. Bien sûr, ce que je voudrais dire, ce qui est très important, là où on a tenu avec Adrian, à faire quelque chose de nuancé, c'est que le personnage de Jim Jeffries est tout j'allais dire, quasiment également traité dans cet album. Mmh. Ce n'est pas juste un sparring partner, ce n'est pas juste un ennemi qu'il faut détruire, pas du tout. Il a, d'une part, c'est quelqu'un de décent, comme on dit, c'est-à-dire ce n'est pas forcément une espèce de pourriture raciste ou quelque chose comme ça, pas du tout. C'est un champion. Très intéressant d'ailleurs le personnage. Très intéressant dans la mesure où il a une certaine noblesse, il a une certaine loyauté. Il a déclaré lui-même, et j'ai insisté pour que ces mots soient dans le... C'est pour ça que je... Encore une fois, ce n'est pas du texte illustré. Un de mes maximes, c'est « Je dessine, donc j'écris ». Le dessin est une écriture. Le dessin d'une bande dessinée est une écriture en tant que telle. Et donc, je récuse absolument le terme d'illustration, car elle signifie un acte de dessiner complètement détaché de la notion de raconter. Non. Pour ne rien vous cacher, la structure de cet album a pris 80% du temps. Je n'ai passé que moins de 20% du temps à dessiner. Pour vous dire, le travail de conception, de recherche du texte, etc., etc., etc. Mais en tout cas, Jim Jeffries est traité de façon quasiment égale. Jim Jeffries n'est pas le croque-mitaine. C'est un grand champion qui a accepté ce défi. Bon, d'accord, ce défi était peut-être... les intentions étaient peut-être raciales, peut-être, mais lui, pour lui, c'était purement sportif.
Oui, oui.
On a insisté pour traiter Jeffries de façon loyale et ne pas le traiter comme... il va se faire effectivement démolir, mais dans une certaine noblesse.
Donc, avant de parler de l'écriture au sens global du terme, hein, de Adrian Mateschka et de ton écriture, de votre travail à deux, voilà. Je voudrais juste revenir sur un point, parce que tu disais que tu aimais qu'on apprenne les choses, on apprend quelque chose, là aussi, qui nous paraît insensé, concernant Jack Johnson, c'est la fameuse voix man.
Oui.
Parce que Jack Johnson a une femme qui se suicide à un moment donné, dans un... Bon, vous racontez ça très bien, comment ça se passe, mais ensuite il tombe amoureux d'une femme blanche, elle tombe amoureuse de lui, et il l'emmène en voiture, et là il y a la loi Mann, oui, qui interdit de transporter des femmes dans les États-Unis.
Entre deux États.
Entre deux États, parce qu'on soupçonne, à juste titre, sûrement qu'on transporte des femmes pour les prostituer.
Voilà.
Lui, pas du tout, parce qu'ils sont mariés,
non.
Mais... Comme il est noir et comme elle est blanche, il va passer en procès à ce titre-là. Ça aussi, et il va être condamné d'ailleurs.
Oui, d'où son exil, très très long exil. Et ça, c'est que donc Jack Johnson n'a pas échappé à une revanche finalement. Ce qui s'est passé avec l'épisode de la loi Mann, c'est une revanche de certaine façon sur ce champion. Mais lui a voulu aussi en faire quelque chose d'intéressant. D'abord, effectivement, il s'exile pendant de longues années. On n'a pas eu le loisir, ni le temps, ni l'espace pour traiter de toute cette période de l'exil qui a été résumée, mais qui est, on va dire, compréhensible dans le bouquin. Et... pour ne pas révéler la fin, ça va se résoudre d'une certaine façon. Oui, la loi Mann, encore une fois, signifie une chose, mais elle était interprétée par tel ou tel shérif ou force de l'ordre pour harceler et persécuter des gens qui, noirs ou blancs d'ailleurs, qui pouvait tomber sous cette loi pour prétendue traite des blanches, esclavage sexuel, que sais-je.
Et quand on voit la vie de Jack Johnson, on pense évidemment à celle de Mohamed Ali. C'est les deux plus sublimes boxeurs noirs de l'histoire, y compris au-delà du bombardier, au-delà de tous les Sugar et Robinson, peut-être à leur niveau, mais en tout cas, Ali et Johnson sont les deux grands boxeurs noirs qui vont bouleverser les choses. Et là aussi, tous les deux, ils font rentrer la boxe dans la modernité, dans l'image, les magazines, la télévision, l'argent. Exactement. Et puis le show, le spectacle.
Ah oui, je pense que d'abord, Mohamed Ali admiré vraiment de façon extraordinaire Jack Johnson. Je pense que ce qu'il partage, c'est leur charisme, ce côté cinématographique, ce côté mégalomane. Regardez aujourd'hui le MMA qui a pris le pas sur la boxe maintenant. La boxe est un peu bon, c'est le MMA maintenant, c'est les combats de l'octogone et tout ce qui s'ensuit. Et on est toujours dans le même cinéma, c'est-à-dire je suis le plus beau, je suis le plus fort, parce que c'est ça qui alimente la machine médiatique, qui alimente ce genre de sport. Je pense que c'est ce qui les rapproche, et je suis entièrement d'accord avec vous. C'est ce qui a fait entrer la boxe aussi, même chez le grand public, chez les béotiens de la boxe. Ils connaissent bien sûr, tout le monde connaît Mohamed Ali, naturellement, mais j'espère qu'avec ce livre, ils connaîtront Jack Johnson.
Bah j'espère. Et alors j'espère aussi qu'on va connaître mieux ce poète américain qui est Adrian Mateschka, avec qui l'album a été conçu, coécrit. Ouais. C'est un magnifique styliste. Moi, je ne connaissais pas son travail. Je l'ai découvert en lisant son nom sur la couverture. Et après, en allant lire un peu ce qu'il avait pu écrire.
Sur Jack Johnson, justement. Son recueil de poèmes de Big Smoke. Qui, c'est ça qui a fait que... Parce qu'en fait, c'est lui qui est venu me chercher avec son agente et qui m'a proposé l'idée. Je voudrais faire un bouquin sur Jack Johnson. Je lui dis, mais banco. Je lis son recueil, qui est sorti chez Penguin, mais c'est en anglais, de Big Smoke, étant, parce que là, les colibés racistes ne manquent pas dans ce livre. Ce n'est pas que nous ayons pris un plaisir particulier, Matika est lui-même africain-américain, mais... Smoke, qui veut dire fumée, c'est un nom donné aussi au noir. Et donc là, c'est la grande fumée, ça veut dire le grand noir. Et ce recueil de poèmes est absolument extraordinaire. Et c'est ça qui a fait que j'ai voulu faire cette collaboration, dans la mesure où je me suis dit qu'il serait absolument fantastique de faire cette espèce d'hybridation entre la poésie, en prose certes, mais cette espèce de rythmique, de pulsation qu'il y a dans le mot, dans un livre qui est à la fois une bande dessinée, à la fois une espèce de monographie des années 1910, en toute modestie, je le dis. Mais voilà, c'était ça. Parce que moi, je commence toujours par fantasmer sur ce que peut être un bouquin. Et donc, naturellement, Adrien n'est pas scénariste, ce qui n'est rien, c'est un immense poète, et c'est cette collaboration dans la conversation. En fait, ce bouquin est issu d'une longue conversation, de dizaines et de dizaines et de dizaines d'heures de conversation entre tous les deux, qui a donné lieu à cet objet.
Et alors, ce qui est fascinant, c'est que vous avez choisi la structure du combat de boxe, la structure du match du siècle, donc 15 rounds, qui sont 15 tableaux, 15 instantanés, qui font un portrait de Jack Johnson en 15 images, même si à chaque fois, il y a évidemment plusieurs pages. Et en même temps, vous lui donnez la parole, c'est quasiment une bande dessinée qui est à la première personne. Oui. C'est je suis Jack Johnson, et voilà ce qui m'arrive, voilà comment je vis ma vie, voilà comment je vois les choses. Ça, c'est assez magnifique.
Et avec un style particulier. C'est-à-dire qu'en fait, il fallait installer, dès le départ, une voix. Et la voix, en fait, c'est une voix, celle de Jack Johnson, mais celle de ce Jack Johnson qui représente tout ce qu'on a dit précédemment. C'est-à-dire d'où est-ce qu'il vient, son enfance, son adolescence, sa soif de reconnaissance, voilà, et comment il a navigué aussi dans, à la fois dans le succès et dans la, la disgrâce, d'une certaine façon. C'est cette voie-là qu'il fallait installer absolument. Et c'est ça que j'ai vu dès le premier jour dans cet album. Maintenant, sur la structure, il était évident. Moi, c'était du pain béni. Ça aurait été 7 rounds, ça aurait marché aussi. Mais les 15 rounds me permettaient de faire effectivement ces 15 tableaux-là et consacrer chaque tableau. Voilà, en fait, c'est la dramaturgie de la boxe qui permet de raconter l'histoire de Jack Johnson et de son époque.
Oui, puis avec des flashbacks, enfin, tout ça marche très très bien, ça avance sans problème, quoi.
Encore une fois, c'est ce travail de structure qui a été le plus chronophage et qui a pris un temps absolument inimaginable. Je n'en pouvais plus à certains moments, mais voilà, je suis content que le résultat soit là, que ce soit aux États-Unis ou en France. Et donc, moi, je pense que c'est ce concept-là qui fait aussi que ça permet effectivement d'installer. Encore une fois, moi, ce que j'adore dans ce genre de livre, c'est le théâtre. Alors, pour moi, c'était des tableaux.
Ouais, c'est très théâtral.
Voilà. C'est le théâtre de papier. Jacobs avait écrit ce bouquin, Mon théâtre de papier. Ça m'a toujours marqué depuis que j'étais tout petit. Et donc c'est cette théâtralité-là qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse aussi dans ce genre de livre, c'est le mot, le verbe. Le verbe est absolument important. Je trouve que ce n'est pas parce qu'une BD, c'est une BD, qu'elle doit avoir des dialogues lignifiants ou simplifiés. On peut avoir j'en ai lu, parce que je ne parle pas de la mienne, mais j'ai lu des BD superbement écrites et je me dis... Là, ça vaut le coup de faire ça, parce que ça prend quand même beaucoup de temps. Et je trouve qu'il faut être à la hauteur de nos lecteurs aussi.
Ouais.
Enfin, les lecteurs sont là, je veux dire, ils veulent de la qualité. Voilà, une exigence, on ne peut pas leur demander effectivement d'acheter un livre. Bon, ce sont des livres qui coûtent quand même relativement cher, et d'être feignant à ce niveau-là.
Juste avant de conclure, il y a une autre chose, tu parlais du portrait de l'époque. Oui. Il y a plein de documents dans cette BD, mais il y en a des centaines pratiquement, des billets de boxe, des affiches, des coupures de journaux, et tout a été redessiné.
Oui.
Oui, tout a été redessiné. Je pense pas qu'il y ait de photos.
Non.
Ça, il me semble pas, quoi.
Non. Alors, ça c'est. Ça...
Il y a aussi plein de caricatures.
Alors les caricatures, tout est redessiné, mais surtout il y a eu plein de détournements de choses, des détournements, c'est-à-dire. D'abord, en ce qui concerne toute cette imagerie, on va dire, c'est ce qu'on appelle des évocations. Et ça permet très très vite, il y a même des affiches qui parlent, ou qui sont mises en scène. C'est tout ce qui peut aller dans la narration, tout en nous mettant dans... En fait, pourquoi avoir le personnage à côté d'une affiche qui ne bouge pas, et lui est en train de parler, pourquoi ne pas faire directement faire parler l'affiche? Parce que j'ai déjà commencé à faire avec mon oncle. C'est-à-dire, on utilise l'imagerie du sujet dans la continuité narrative et qui contribue à l'histoire. Voilà. Et que ce soit pas des pièces rapportées pour faire oui, c'est un documentaire, mais que ça fasse partie de la narration. Dans un deuxième temps, pourquoi redessiner? C'est pour une unification du style. C'est-à-dire qu'il serait quand même dommage d'avoir quelque chose de scanné posé à côté. Toutes les pochettes de disques dont Monk sont redessinées. Redessinées, simplifiées, mais redessinées. Parce que ça ferait une espèce de faute de goût, d'une certaine façon, d'avoir des scans à côté de dessins, ça le fait pas. Quoi.
Non, et puis les affiches, ça devient quasiment des personnages de l'histoire.
Voilà, c'est ça. Ah. Voilà, ils sont mis en scène dans le... Et donc là, il y a la séquence de la poursuite de Jack Johnson, qui poursuit Burns pour l'inviter ou pour le défier au combat. Ce sont un style de caricature de l'époque qui montre ce qui était assez cocasse, comment Jack Johnson poursuivait Burns à Paris, enfin un petit peu partout dans le monde, pour lui dire viens, viens, on va combattre, tu vas pas te défiler comme ça, etc., etc. Et je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas utiliser le... Voilà, c'est ça qui a pris ce temps, c'est cette réflexion sur les concepts, sur les... Et puis il y a la séquence africaine aussi, c'est... Et puis, encore une fois, ce n'est... Je récuse les dessins qui accompagnent du texte. Mmh. Non, c'est une synergie entre l'écriture textuelle et l'écriture graphique. Voilà.
Bon, on va s'arrêter là, parce que l'émission a un temps indéfini, mais juste, je termine sur une chose, je ne peux pas résister, on en a parlé avant de commencer à enregistrer, c'est que moi j'ai l'impression que ce portrait de Jack Johnson, c'est un peu la suite du portrait de Monk que tu as dessiné il y a 7-8 ans à peu près, quoi. J'ai l'impression que ça s'emboîte parfaitement.
Oui, parce que ça, c'est... j'allais dire, ça fait partie de ma nouvelle démarche où j'expérimente. En fait, j'ai découvert que l'outil était beaucoup plus puissant qu'il n'y paraît. C'est-à-dire qu'on peut vraiment, vraiment le pousser encore plus loin dans des exercices d'hybridation. En tout cas, la narration dans cette forme... Appelez-la comme vous voulez, bande dessinée, histoire complète, roman graphique, certains l'appellent roman dessiné, c'est de pousser les outils jusqu'au maximum de ce qu'elles peuvent me permettre de raconter. Et je pense que c'est un outil tout à fait particulier et encore plus puissant que d'autres médiums.
Mais Youssef, je te remercie. Et on se revoit dans 5 ans pour le prochain.
Avec plaisir.
Bulle d'histoire. Bulle d'histoire avec Stéphane Dubreuil. Waouh! Une émission à retrouver le mardi et le samedi à 10h30.